Verset, nous allons lire les versets 30 31 et 32. Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. C'est la troisième partie de notre message que nous avons commencé il y a un mois. Donc, on va simplement résumer en gros pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux et celles qui n'étaient pas là, pour que vous puissiez en gros suivre. Eh bien, résumer un peu ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu il y a un mois, et ensuite de ça, bien, la semaine d'après. Et après, il y a eu la fête de la moisson. La semaine passée, on a parlé de l'inquiétude. Et cette semaine, on va parler, encore une fois, de la liberté que nous trouvons, que nous retrouvons dans le pardon. La liberté que nous retrouvons dans le pardon. Alors, lorsque vous étiez venu au Seigneur, lorsque vous êtes venu au Seigneur et que vous avez dit, « Seigneur, je suis un pécheur, je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé » et que vous avez reconnu que Jésus était mort pour vous sur la croix, eh bien, vous avez déclaré simplement reconnaître qu'il avait payé le prix exigé par la loi pour votre péché en versant son sang sur la croix. Et vous avez dit, « Seigneur, je te demande de me pardonner, je te remercie de m'avoir sauvé. Dieu l'a fait et il vous a pardonné tous vos péchés. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes alors entré dans la famille de Dieu, mais vous n'en avez pas fini encore avec le pardon, parce qu'à partir du moment où vous avez été accepté dans la famille de Dieu, vous apprenez à pardonner aux autres comme Dieu vous a pardonné. Alors Dieu vous a fait miséricorde, alors nous sommes appelés également à manifester de la miséricorde envers les autres. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et une fois que vous faites partie de la famille de Dieu, une fois que vous êtes sauvé, une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez apprendre à pratiquer le pardon, on doit apprendre à pratiquer le pardon, parce que si on ne le fait pas, on empêche Dieu finalement d'exercer sa miséricorde envers nous. Et on ne peut pas s'empêcher d'insister sur l'importance de pardonner. L'importance de pardonner. J'ai dit qu'un des signes extérieurs de la nouvelle naissance, je me demandais c'était quoi la bosse sur laquelle je marchais. J'ai déjà dit qu'un des signes extérieurs de la nouvelle naissance, c'était la capacité de pouvoir pardonner. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne veut pas pardonner, mais quelqu'un qui est né de nouveau, c'est possible qu'il ne puisse pas pardonner, parce que la blessure est encore toute fraîche, mais c'est quelqu'un qui ne dira jamais « je ne veux pas pardonner, je ne pardonnerai jamais ». Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Christ qui habite en lui. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, si nous sommes réunis ensemble, c'est parce que tu es le Dieu qui prend plaisir à pardonner. Le Dieu qui a envoyé son Fils unique, non pas dans le but de condamner, de juger le monde, mais de sauver le monde. Et aujourd'hui, Seigneur, si nous faisons partie de ta famille, c'est grâce à ce que tu as accompli à travers la personne de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour manifesté à la croix. Merci aussi pour tes bienfaits que tu déverses jour après jour dans nos vies. Et merci aussi pour l'enseignement que tu veux nous donner sur le pardon ce matin. Seigneur, parce que cela fait partie de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Jésus a pardonné à ses ennemis. Il a demandé de prier pour ceux qui nous persécutaient. Et Seigneur, non seulement il nous l'a demandé, mais il l'a mis en pratique, Seigneur. Et nous te demandons, tu connais les cœurs de chacun ici ce matin. Tu connais les expériences douloureuses de chacun. Tu connais les difficultés de chacun, peut-être à pardonner ce matin. Je te prie, Seigneur, de faire tomber ce mur, cette forteresse qui pourra empêcher quiconque dans cette salle de pouvoir accorder librement son pardon à celui ou celle qui lui a fait du mal. Et tout cela, Seigneur, nous te demandons pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alors, il y a quelques semaines, eh bien, nous avons vu qu'il y avait quatre raisons pour lesquelles nous devions être pardonnés, quatre raisons pour lesquelles nous devions pardonner, pardon. La première, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, donc à notre tour, on doit faire grâce. C'est ce que Paul nous rappelle dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, nous allons lire ensemble. À partir du verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Et verset 32, il nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Première raison pourquoi nous pardonnons, parce que Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a graciés. Deuxième raison, parce que nous ne voulons pas être trouvés coupables devant Dieu de ne pas avoir été pardonnés et être ainsi rejetés par lui. On a vu, il y a 3 semaines, nous avons vu dans Matthieu chapitre 6, les versets 14 à 15, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » La troisième raison, c'est afin de ne pas être privé de la grâce de Dieu, afin de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, cet homme dans Matthieu, rappelez-vous, on avait vu ça il y a quelques semaines, dans Matthieu chapitre 18, les versets 23 et 24, ce serviteur qui avait été pardonné suite à une dette épouvantable, des millions d'euros qu'il devait. Et son roi bien va lui pardonner cette dette qu'il était incapable de rembourser. Rappelez-vous. Et Jésus raconte cette histoire, cette parabole. Et aussitôt que le serviteur est sorti, il rencontre quelqu'un qui lui doit à peu près 100 euros. Et qu'est-ce qui arrive? Il le prend à gorge. Il est prêt à l'étouffer pour qu'il lui rembourse ses 100 euros, alors que ce pauvre homme lui dit, écoute, prends patience, je vais te rembourser. Et cet homme qui vient de voir sa dette être effacée, qui devait des millions et des millions, eh bien, est incapable de pouvoir effacer la dette de quelqu'un qui lui devait plus ou moins 100 euros. Et quand le roi apprend cela, dit Jésus, eh bien, il est impitoyable envers ce serviteur qui n'a pas voulu pardonner. Il va lui faire payer, finalement, la conséquence de son non-pardon, la conséquence de ne pas être miséricordieux, et il le traite de méchant serviteur, et il le fait enfermer. Et c'est important, à ce moment-là, le serviteur, il est privé, s'est privé de la grâce de Dieu, parce qu'il était incapable de remettre la dette de quelqu'un. Et on se souvient qu'on avait vu il y a quelques semaines aussi que le pardon, c'est une question de remise de dette. On est redevable à Dieu à cause de notre péché. Et Dieu nous remet cette dette. Voilà pourquoi on dit que Jésus nous a rachetés. Il a racheté la dette de notre péché. Il l'a racheté, il l'a pris sur lui. C'était déversé sur son compte à lui. Et en retour, eh bien, on reçoit, nous, la justice, la sainteté de Dieu et le pardon de Dieu qui est déversé dans notre cœur. Et c'est là qu'on voit tout l'amour de Dieu pour sa créature. Et la quatrième raison qu'on avait vue pour laquelle nous devons pardonner, c'est parce qu'on est gagnant à tous les coups. On est gagnant à tous les coups. J'ai dit que l'amertume et le non-pardon, c'est comme un cancer qui ronge le cœur d'une personne. Jésus raconte dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, combien il est urgent de se réconcilier avec son frère. Quand vous pardonnez, vous réparez une relation qui est brisée. Et Jésus dit, « Et vous avez gagné votre frère. » Gagné votre frère. Et le ministère de l'Église, le ministère de chaque chrétien, ce n'est pas un ministère de condamnation, c'est un ministère de réconciliation. La condamnation, ça appartient à Dieu. S'il croit bon de condamner, mais il n'a pas donné le mandat à l'Église de condamner les gens. Il n'a pas donné le mandat à l'Église de condamner les frères et sœurs en Jésus-Christ. Le mandat de l'Église, c'est la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. En retour, on doit aspirer à faire en sorte que les gens puissent se réconcilier ensemble, que ce soit dans l'Église, que ce soit à l'extérieur. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, on est invité à travers le message de l'Évangile à faire en sorte qu'ils puissent être réconciliés avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand ils sont réconciliés avec Dieu, être incorporés dans la famille de Dieu et pouvoir passer l'éternité dans ce magnifique paradis que Dieu est en train de nous préparer. Voilà les principales raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Maintenant, ce matin, j'aimerais regarder le deuxième point, les exigences élevées pour le pardon. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de compromis à faire concernant le pardon. Qu'est-ce que Paul dit ici dans Éphésiens chapitre 4, verset 32? « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Supportez-vous les uns les autres. » Colossiens chapitre 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, si l'un a sujet de critiquer son frère, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et en tant qu'être humain, on sait que c'est beaucoup plus difficile. » Ah, je vais le dire différemment. C'est beaucoup plus facile pour le Seigneur de laver notre cœur que de laver notre langue. Jacques nous dit que la langue, c'est un petit muscle qu'on est incapable de dompter complètement. Et c'est important d'être capable de dompter notre langue, parce que c'est avec cette langue que Dieu nous a donnée qu'on choisit de bénir, qu'on choisit de maudire les gens. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention à tout ce qui sort de notre bouche, afin que ce soit des sujets de bénédiction, des paroles de louange et d'adoration. Mais surtout envers nos frères et sœurs, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Regardez ce qu'il dit. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Et c'est un combat spirituel, frères et sœurs. On est chrétien, on reste humain et... Ce petit bout. Et Jacques utilise une très belle image. Il prend l'ancre, il prend le gouvernail d'un bateau si petit et qui pourtant donne toute la direction au navire, qui guide le navire pour savoir quelle direction il va prendre. Et c'est la même chose pour nous. Notre langue, elle est un gouvernail. Elle nous permet aussi de voir, en fonction des paroles qui sortent de notre bouche, quelle direction on suit pour l'instant. La voie qui est étroite ou la voie large qui mène à la perdition. Et Jésus est notre modèle concernant le pardon et il en a payé le prix. Nous parlons de celui qui nous a rachetés en versant son sang sur la croix pour nous. Et chers amis, vous allez ressentir quelque chose, quelque peu, ce que Jésus a ressenti dans le jardin de Gethsémané jusqu'au moment où il s'est rendu sur le mont du Calvaire, si vous pardonnez de tout votre cœur à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Lorsqu'on pardonne de tout notre cœur, frères et sœurs, on ne peut pas s'empêcher de ressentir, quand on se met à la place de Jésus, ce qu'il a ressenti dans le jardin de Gethsémané et aussi sur le mont du Calvaire. On ne peut pas s'empêcher de ressentir le combat que Jésus a vécu à ces deux endroits. À Gethsémané, le combat qu'il a vécu, alors qu'il n'a jamais rien fait de mal, alors qu'il a béni les gens, alors qu'il a guéri, alors qu'il a fait des miracles incroyables. Combien il aurait pu arriver et remettre en question sa mission. Dire, regarde-moi cette bande d'épais, quoi. Regarde-moi cette bande de loques, cette bande de pécheurs. Je n'ai jamais rien fait de mal, ils n'ont rien à me reprocher. C'est la même chose pour nous, hein. Quelqu'un, Dieu, nous fait du mal. Et qu'est-ce qu'on fait par notre nature humaine? Regarde-moi cet homme, regarde-moi cette femme. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me fasse du mal? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il parle en mal de moi? Eh bien, le Seigneur, vous savez ce qu'il dit? Fais exactement ce que moi j'ai fait. Pardonne. 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 Si tu veux que ton Père céleste te pardonne. Et c'est pour ça qu'on se met à la place de Jésus, non seulement sur le jardin de Gethsémané, mais lorsqu'il portait sa croix, frères et sœurs, tout le long du chemin qui le conduit jusqu'à la croix, les injures qu'il a entendues des uns et des autres, les moqueries qu'il a entendues des uns et des autres alors qu'il venait d'être fouetté, portant sa couronne d'épines. Qu'est-ce qu'on peut avoir dit à Jésus tout le long de ce chemin-là? Imbécile, idiot, stupide. Vous vous imaginez tout ce qu'il a pu entendre? Les évangiles ne nous rapportent pas ces paroles-là. Mais vous pouvez vous imaginer tout ce qu'il a entendu, le combat pour arriver jusqu'à la fin de sa mission et dire « Tout est accompli ». Frères et sœurs, un chrétien aussi, dans sa vie chrétienne, arrive à faire en sorte que sa mission, elle est complètement accomplie par rapport à son prochain, lorsqu'il est capable de pardonner à quiconque lui fait du mal. Si l'Esprit de Christ règne en nous, on n'est pas capable de ne pas pardonner à quelqu'un. Nous ne sommes pas capables. Parce que nous nous mettons à sa place et nous disons, il n'y a jamais personne qui nous fera autant de mal, Seigneur Jésus, que toi tu as pu supporter. À combien plus forte raison, je n'ai pas les moyens de ne pas pardonner à ceux qui me font du mal. Pardonner comme Jésus nous a pardonné, c'est que nous devons nous sentir pleinement libres de pardonner. Personne n'a jamais forcé Jésus à nous pardonner. Il l'a fait spontanément et il l'a fait rapidement et nous devons faire de même. N'oublions pas qu'il ne nous a pas pardonné après avoir obtenu justice. Et il en est de même pour nous. Il y a des gens avec qui nous avions de bons, très bons rapports et qui pourtant nous ont fait du mal, mais qui ne savent pas jusqu'à quel point ils nous ont blessés. Pourtant, combien de fois nous est-il arrivé dans le passé de dire « Je vais leur montrer, moi, jusqu'à quel point ils m'ont fait du mal. Ils ne payent rien pour attendre. Je vais leur rappeler ce qu'ils m'ont fait. Je vais les corriger et je vais leur faire subir la même chose qu'ils m'ont fait. Et après, pardon, que je leur ai rendu l'appareil, que je les ai fait souffrir, que j'ai réussi à les faire pleurer, que je leur ai rappelé ce qu'ils m'ont fait, après les avoir humiliés et que j'ai satisfait ma vieille nature, je me suis dit alors, je peux peut-être leur pardonner. Est-ce que quelqu'un vous a déjà traité de cette façon? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire, eh bien, je peux maintenant te pardonner? Combien vous sentiriez-vous? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Hey, un instant, je n'ai pas besoin que tu me pardonnes. Tu me l'as déjà fait largement payer. Tu t'es vengé. Tu as fait ci, tu as fait ça. Hey, je n'ai pas besoin de ton pardon. Et frères et sœurs, il nous est demandé de pardonner spontanément et rapidement. Vous devriez être tellement impatient de pardonner que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour essayer de rejoindre la personne afin de lui pardonner. Ça fait partie de la dimension chrétienne. Pas de dire, je vais attendre qu'il vienne me trouver. Dieu n'a pas attendu que l'homme aille le trouver. Il est venu en Jésus-Christ. Et il nous demande de faire de même. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour nous? Frères et sœurs, pourquoi nous l'aimons? Parce qu'il nous a aimés le premier. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, j'ai rappelé ça il y a 3 semaines, je vais le rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là. Lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu n'a pas resté dans le ciel en disant, « Eh bien, je vais attendre, peut-être qu'ils viendront me trouver afin de tenter de me convaincre de les pardonner. » Non! Dieu vient dans le jardin. Et rappelez-vous le principe du pardon. C'est l'offensé qui vient vers l'offenseur. C'est Dieu qui est offensé dans cette histoire-là. Et c'est Dieu qui vient vers les offenseurs, Adam et Ève. Il vient les rencontrer dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Adam, où es-tu? En d'autres mots, Adam, où en es-tu avec ta relation, dans ta relation avec ton Seigneur? C'est ce que Dieu est en train de lui faire. Parce que ça ne tient pas debout, si on le prend au sens littéral. Adam, où es-tu? Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses, on ne peut rien lui cacher. Donc, ce n'est pas l'idée, Adam, attends, Adam, t'es dans le jardin, je ne te trouve pas, t'es caché quelque part. Dieu, il sait où il est, Adam. C'est spirituellement que Dieu frappe à la porte du cœur d'Adam. Adam, où en es-tu dans ta relation avec ton Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas comme un détective, il ne vient pas comme un policier pour essayer d'arrêter Adam et Ève pour les condamner. Il vient comme quelqu'un qui il a déjà accordé son pardon. Il vient simplement donner la possibilité à Adam de dire, écoute, j'ai péché, je me repens, pour rétablir sa relation avec son Seigneur et avec son Créateur. Pardon. Et c'est ce que Dieu veut lui dire, c'est ce que Dieu disait à Adam. Hein? Je t'ai pardonné, veux-tu te réconcilier avec ton Créateur? Et on sait ce qui est arrivé. Hein? Et on a tous le syndrome d'Adam. Hein? Tant aussi longtemps qu'on ne rencontre pas le Seigneur Jésus, on a tous le syndrome d'Adam. Moi, je connais, quand j'ai eu mes 4 enfants, quand ils étaient jeunes, puis je rentrais à la maison le soir, qu'il y avait quelque chose de brisé. Si vous vouliez savoir qui avait brisé, vous étiez sûr que c'était ni un des 4. Hein? Il n'y avait personne des 4 qui avait brisé. Tu demandais au plus vieux, c'est qui a échappé ça? Ah, c'est pas moi, c'est lui. 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 Finalement, c'était moi le coupable, j'aurais pas dû le mettre là, il n'aurait jamais brisé. Mais c'est pas ce qu'Adam a fait dans le jardin. Exactement, hein? Adam, il dit, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Dieu se tourne vers Ève, Ève, elle dit, c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent que tu as placé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Dieu? C'est toi l'imbécile, si tu n'avais pas créé le serpent, il n'y a rien de ça qui serait arrivé. Hein? Ça, c'est le syndrome d'Adam. Et en Jésus-Christ, ce syndrome-là, il part, puisqu'on a le syndrome, on développe le syndrome du dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Et quand on commet une faute, on ne dit pas que c'est la faute d'un tel, on dit, ma faute, et Seigneur, je te demande pardon. Au sommet de son règne et de sa gloire, David se rend coupable d'un acte dont la Bible a gardé la mémoire. Il commet un adultère avec Bathsheba, une séduisante femme d'un de ses généraux. David se débrouille non seulement de coucher avec cette femme-là, mais il va trouver le moyen de faire assassiner le mari gênant. Suite à l'intervention du prophète Nathan, David prend conscience de la gravité de son geste et s'en humilie sincèrement. David dit, « Je reconnais mon péché devant le Seigneur. » Et Nathan dit à David, « Dans ce cas, le Seigneur te pardonne. » Frères et sœurs, il n'y a pas de pardon sans repentance. Quand vous regardez la vie de David, quand vous regardez le péché de David par rapport à ce que Saül a fait, mais tu te dis, mais pourquoi Dieu a pardonné à David qui a volé la femme d'un autre, qui a tué, en plus pour cacher son péché, alors que Saül n'a jamais fait autant? Pourquoi Dieu a pardonné à un et pas pardonné à l'autre? Parce que David s'est repenti. Saül, lui, ne faisait que regretter. Il ne s'est jamais repenti. David, malgré qu'il est tombé, cherchait à faire de tout son cœur la volonté de Dieu. Saül, lui, cherchait de tout son cœur à faire sa volonté. Pas le plan de Dieu pour sa vie, le plan pour sa vie à lui. Il avait décidé qu'il y avait un plan pour sa vie, c'est lui qui choisirait le plan. Et ici, David n'est pas plus méritant que vous, que moi. Il fait simplement s'humilier et il demande pardon. Et quand le Seigneur dit, écoute, si ton frère a péché contre toi, va le trouver. Va gagner ton frère. C'est exactement ce que Dieu fait avec Nathan dans l'Ancien Testament. David, il cache son péché. David, il a perdu sa relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il parle à Nathan. Nathan, va voir ton frère David. Gagne ton frère. Gagne ton frère, raconte-lui cette histoire. Pas dans le but de le condamner, dans le but qu'il réalise la gravité de ce qu'il a fait. Et tu vas gagner ton frère. Et Nathan, c'est exactement ce qu'il fait. C'est une très belle illustration dans l'Ancien Testament. Nathan, il vient là dans le but non pas de condamner, mais de mettre en lumière dans le cœur de David, écoute, de pécher contre ton Seigneur. Et le Seigneur, il m'envoie pour que tu puisses rétablir, te repentir et rétablir ta relation avec ton Seigneur. Et combien les anges dans le ciel se réjouissent de voir qu'un frère est allé et que ce frère a gagné son frère à la cause de Jésus-Christ. Combien les anges et Dieu se réjouissent. Pardon. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, en secret. Tu ne fais pas une annonce dans l'église, OK, là, priez pour moi, je m'en vais rencontrer un tel qui a fait ça, priez pour moi, non. Tu sais que ton frère a péché, tu es seul à le savoir, va le trouver. Va le trouver seul. La Bible, il y a une démarche. C'est pas va raconter ça à tout le monde pour salir le nom de ton frère. Va le rencontrer tout seul. Le but, ce n'est pas de salir ton frère. Le but, ce n'est pas de perdre ton frère. Le but, c'est de le gagner. Et après, il y a une démarche. Jésus, il est clair au niveau de cette démarche. Si ton frère ne veut pas se repentir, prends quelqu'un d'autre à ce moment-là. Vous allez être deux pour essayer de le gagner. Et s'il ne veut pas, bien là, tu le dénonces devant toute l'Église. Il y a une progression, mais on n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour juger. Dieu ne dit pas « gronde-le », non, il dit « va le voir, prends-le à part ». Et le cœur débordant d'amour pour ton frère qui a péché, qu'on reprend-le. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et j'aime bien ce parallèle. Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu dans le monde pour perdre. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu gagner ceux qui étaient perdus pour le royaume de Dieu. Et il nous dit, va voir ton frère s'il a péché et gagne-le pour la cause de Dieu. Dans Matthieu chapitre 18, verset 21, nous retrouvons Pierre qui s'approche de Jésus, qui lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » 7 fois, c'est un chiffre parfait, n'est-ce pas, dans la Bible? « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. » Et par déduction, cela ne signifie pas que nous devons nous arrêter à la 400e, 490e fois. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus essaie de faire réaliser à Pierre ici? Pierre, arrête de savoir combien de fois tu dois pardonner. Arrête de compter parce qu'il n'y a pas de limite à pardonner. Oublie les mathématiques. Pardonne de tout ton cœur, même si tu dois pourchasser quelqu'un afin de lui pardonner. Frères et sœurs, essayez juste de penser si vous devez pardonner à quelqu'un, vous devez chercher à pardonner 490 fois dans la journée à différentes personnes. Bien, vous savez ce que vous faites? Tout ce que vous faites pendant toute la journée, vous cherchez dans votre tête 490 personnes qui vous ont causé des problèmes dans les dernières journées. C'est tout ce que vous faites. Vous rappelez tout le tort que les gens vous ont fait. Et là, pour vous dire, pour jouir et dire la 491e fois, « Ah, là, je peux condamner les gens. » Et Jésus, à travers ce chiffre qui est immense, il fait simplement dire à Pierre, « Écoute, arrête de compter. Parce que si Dieu fallait qu'il compte le nombre de fois que tu as commis des péchés, tu serais impardonnable, Pierre. À combien plus forte raison, si Dieu ne te condamne pas par rapport aux péchés que tu as commis, de la même façon, tu ne dois pas condamner ton frère et ta sœur. Pierre, je te donne un ministère de pardon, je te donne un ministère de réconciliation. Amen. Deuxièmement, dans ce monde, nous devons pardonner spontanément, mais vous devez pardonner entièrement, c'est-à-dire de tout votre cœur. Frères et sœurs, nous devons nous assurer que nous avons tout pardonné et qu'il ne reste pas de résidus de non-pardon dans notre cœur. Imaginons que quelqu'un vienne me trouver en me disant, je veux que tu me pardonnes ce que je t'ai fait. Et mon premier réflexe, ce serait de dire, ben, écoute, t'as pas à t'inquiéter, tout est réglé pour moi. Et là, par la suite, je réalise que c'est pas bien pour moi d'agir ainsi, parce que c'est pas cela pardonner, frères et sœurs. Et que cette personne a besoin, même si elle ne les mérite pas, celui de recevoir mon pardon. N'aie donc pas à lui dire, t'as pas à t'inquiéter, tout est réglé. Mais plutôt, je te pardonne. Avez-vous remarqué, c'est facile de dire, inquiète-toi pas, fini, moi, je t'oublie. Non, dis, je te pardonne. Pas facile, ça, de le dire. Je te pardonne. Il y a des gens qui sont incapables de pardonner. Ils peuvent excuser n'importe qui, mais ils sont incapables de pardonner. Vous savez pourquoi? Il y a une puissance dans le pardon. Parce que le pardon, ça vient directement du ciel. Et il faut être né d'en haut pour être en mesure de pardonner, de remplir cette fonction qui vient d'en haut, celle de pardonner aux uns et aux autres. Et aussi d'être capable de nous pardonner à nous-mêmes les choses qu'on a fait et qu'on n'est pas trop fiers d'avoir fait. C'est très important. Il arrive parfois que lorsque nous agissons mal, plutôt que d'aller voir la personne en lui disant « Pardonne-moi », nous disons plutôt « Si je t'ai blessé, je suis désolé, je tiens à te présenter mes excuses. » C'est très astucieux de dire « Je suis désolé, je tiens à te présenter mes excuses. » Le mot « excuser » vient du mot grec « apologia » qui signifie « commettre une infraction ». Et nous cherchons la plupart du temps à nous excuser, mais ce que nous faisons en fait, c'est que nous cherchons à nous justifier. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, ne vous excusez pas, dites simplement, « Veux-tu me pardonner pour le tort que je t'ai fait? » Ça, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. C'est pas évident de dire, « Mon frère, ma sœur, veux-tu me pardonner pour le tort que je t'ai fait? » Et de ne pas continuer en essayant de se justifier. Combien il est difficile de demander pardon. Il est aussi difficile de demander pardon, encore plus difficile souvent, que de pardonner. Et c'est en Jésus-Christ qu'on reçoit la capacité de pouvoir dire, je t'ai pardonné de tout mon cœur. Il n'y a plus de résidus qui restent. Le célèbre psychiatre américain Carl Menninger a déclaré un jour que s'il pouvait convaincre les patients qui sont internés dans les hôpitaux psychiatriques que leur péché avait été pardonné, écoutez bien ça, c'est pas n'importe qui ce bonhomme-là, c'est, je suis pas pour la psychiatrie, mais c'est un gars célèbre, il a vécu de 1893 à 1990, donc presque un centenaire, une sommité aux États-Unis, écoutez ce qu'il a dit. Si je pouvais convaincre les patients qui sont internés dans les hôpitaux psychiatriques que leurs péchés sont pardonnés, 75% d'entre eux pourraient quitter l'hôpital le lendemain. 75%. Frères et sœurs, nous devons pardonner et ne plus nous rappeler à quelqu'un et ne plus rappeler à quelqu'un le tort qu'il nous a fait. Cela signifie que le tort qu'il m'a été fait ne doit plus jamais être mentionné. C'est terminé. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 43, verset 25? C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Cela signifie que les péchés sont envoyés dans la tombe de l'oubli de Dieu. Cela signifie que si vous pardonnez à quelqu'un, vous devez le faire une fois pour toutes, et que ce soit terminé pour de bon. Vous dites, ouais, pasteur, un instant, ça soulève un problème pour moi, ça. Lorsque vous affirmez que Dieu ne se rappelle pas de nos péchés, comment Dieu peut-il vraiment oublier à jamais nos péchés? Chers amis, intellectuellement, Dieu ne peut pas oublier parce qu'il ne souffre jamais de perte de mémoire et que sa mémoire ne diminue pas au fil des siècles. Il demeure toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés », il est en train de dire que non seulement il ne reparlera plus jamais de ses péchés, mais qu'il ne les utilisera plus jamais contre vous. C'est ça quand Dieu dit « Je ne me souviendrai plus jamais de vos péchés ». Ce qu'il dit, en fait, c'est ceci. « Si jamais je m'en rappelle, je vais m'en rappeler comme étant des péchés que je vous ai pardonnés. Je ne continue pas à avoir cet esprit de rancune que les êtres humains ont tendance à avoir. Le péché, dit Dieu, est enterré dans la tombe d'oubli, dans la tombe d'oubli de mon pardon. Combien de fois avons-nous dit que nous avions pardonné, mais que nous n'avions pas finalement oublié? J'ai lu l'histoire d'un homme qui avait des classeurs qui contenaient tellement de paperasse qu'il était pratiquement impossible de fermer les tiroirs. C'était le genre d'individu qui ne supportait pas de jeter quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a ici dans cette salle? Garde au cas où, hein? Au cas où? Oui, voilà. Alors, c'était le genre d'individu qui ne supportait pas de jeter quoi que ce soit et qui empilait les dossiers un peu partout dans son bureau. Et là, un jour, sa secrétaire, elle lui dit, « Monsieur, est-ce que je peux faire le ménage de votre bureau et jeter ce qui n'est plus utile et dépassé? » Elle lui répond, « Pas de problème, faites-moi un bon nettoyage, mais faites quand même une photocopie de tout ce que vous jetterez. » Est-ce ainsi que nous pardonnons en disant, « Frères et sœurs, c'est classé, ce qu'il m'a fait, mais je n'oublierai jamais. » Chers amis, vous oubliez ce qu'il vous a fait et vous ne ramenez plus jamais à la surface le tort que cette personne vous a causé, parce que c'est une clause qui fait partie du pardon et parce que c'est ainsi que Dieu pardonne. Et vous savez pourquoi c'est important de pardonner? Parce que tant et si longtemps qu'on ne pardonne pas, on est lié avec le mal que la personne nous a fait. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais voulu se venger. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais lancé des paroles de malédiction sur la croix. Il n'est jamais été lié au mal qu'on lui a fait. Jamais. Et qu'il était capable de dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Finalement, nous devons faire tous nos efforts pour pardonner. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis que je dois faire tous mes efforts pour pardonner? Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de naturel que celui de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Notre nature humaine exige d'être vengée. Notre nature humaine exige que justice soit faite. Ce n'est pas naturel de pardonner. Ceux qui nous ont fait du mal ont besoin de payer, c'est ce qu'on se dit. Ils nous ont blessés, c'est ce que notre nature humaine nous dit. « Hey, pense à ce qu'il t'a fait, pense à ce qu'il t'a fait. » Notre nature humaine, elle crie vengeance, elle crie justice. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Écoute, rends-lui la monnaie de sa pièce afin qu'il comprenne jusqu'à quel point il t'a fait du mal. Nous connaissons tous ce vieux dicton qui dit que l'erreur est humaine et que pardonner est divin. Vous avez besoin de Jésus pour être pardonné, chers amis. Vous avez besoin de Jésus afin de pouvoir être pardonné. Vous avez besoin, non, je vais le dire différemment. Vous avez besoin de Jésus pour être pardonné, chers amis, vous avez besoin de Jésus afin de pouvoir être capable de pardonner. Humainement parlant, c'est impossible de pratiquer le pardon biblique. C'est impossible de pardonner comme Jésus a pardonné. C'est impossible de pardonner dans notre chair comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Où trouvons-nous cette capacité à manifester de la bonté envers nos ennemis? Où trouvons-nous cette capacité à manifester de la compassion envers ceux qui nous ont fait du mal? C'est en Jésus que nous retrouvons cette capacité à accomplir ces choses qui viennent d'en haut. Celui-là même qui nous a pardonné est le même qui met en nous son esprit et nous rend capable d'avoir la force et le pouvoir de pardonner. Moi, chaque fois que je peux hésiter à pardonner, hein, il y a toujours une phrase du Seigneur qui me vient en tête. Rappelle-toi ce qu'ils m'ont fait. Rappelle-toi ce qu'ils m'ont fait. Tu faisais partie de la même race. Corrie ten Boom, cette jeune fille hollandaise qui a été emprisonnée par les nazis dans un camp de concentration avec sa sœur à Ravensbrück, parce qu'elle avait caché des Juifs afin de les éviter de passer dans les chambres à gaz et d'être torturée. Eh bien, raconte, la sœur de Corrie ten Boom est morte pendant son séjour dans ce camp. Et lorsque Corrie était emprisonnée dans ce camp, elle fut maltraitée de façon inimaginable. Elle a souffert de la faim et elle a travaillé durement. Et une des choses les plus dégradantes qui lui est arrivée, c'est lorsqu'elle a été forcée de se déshabiller et de prendre une douche devant un des gardiens de prison, pendant qu'il la regardait avec des yeux qui en disaient long sur ses intentions, humiliant cette jeune fille pieuse dont le cœur appartenait entièrement à Dieu. Plus tard, Corrie ten Boom fut libérée, elle consacra sa vie à servir le Seigneur et à voyager à travers le monde pour partager un message de pardon à tous ceux et celles qui avaient souffert de toutes sortes d'abus dans leur vie. Un jour, alors qu'elle venait de terminer un message sur le pardon, un homme s'est approché d'elle et lui a tendu la main pour serrer la sienne en lui disant, « Corrie, est-ce que la grâce de Dieu n'est pas quelque chose de formidable? Corrie, est-ce que pardonner n'est pas quelque chose de magnifique? » Lorsqu'elle regarda cet homme tout droit dans les yeux qui se tenaient devant elle, tout son être se figea parce qu'elle venait de reconnaître le gardien de prison qui l'avait si humiliée dans ce camp de concentration. Elle avait devant elle cet homme qui avait abusé d'elle, celui qui avait mal agi envers elle. Et voilà qu'elle se retrouvait face à lui, lui tendant la main en lui disant, « Est-ce que la grâce de Dieu n'est pas quelque chose de formidable? Est-ce que pardonner n'est pas quelque chose de magnifique? » Elle dit, « J'étais figée. Je voulais tendre ma main vers la sienne parce que je venais de parler sur le pardon. Mais elle dit, « Je ne pouvais pas. » Et j'ai prié en disant, « Ô Jésus, aide-moi à pardonner. » Elle ajouta, « Je lui ai alors tendu la main et j'ai mis la mienne dans la sienne. » Et elle dit, « La grâce de mon Sauveur et son amour ont commencé à circuler à travers tout mon corps. » Chers amis, je vous invite à réfléchir sur la façon dont Jésus-Christ nous a pardonné et à vous rappeler que c'est la puissance de Jésus-Christ qui nous rend capables de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. N'insultons jamais la grâce de Dieu en disant « Je suis incapable de pardonner. » Nous pouvons pardonner spontanément. Nous devons pardonner entièrement et nous ne devons jamais ramener à la surface le tort qu'on nous a fait. Et nous devrions nous efforcer de pardonner parce que dans sa grâce et dans son amour, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Le temps file. Et quelle heure? Oh, oui. Rapidement, hein, il y a trois choses que j'aimerais dire en terminant. C'est que lorsqu'il y a un pardon, il y a une libération personnelle. Vous êtes ainsi libéré. Vous êtes aussi libéré. Vous avez non seulement libéré la personne de son péché, mais vous êtes aussi libéré du péché que la personne a fait dans votre vie. Deuxièmement, il y a une réconciliation qui prend place. Il y a une réconciliation entre vous et l'autre personne. Vous allez gagner votre frère et vous allez être libéré. Et finalement, il y a une grande joie dans votre cœur. Il y a une grande joie. Le non-pardon, ça amène le contraire de tout ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, les versets 31 à 32. Vous lirez le verset 30. C'est tout le contraire. C'est ça que le non-pardon nous apporte. De l'amertume, de la rancune, de la vengeance. Regardez, on l'a très, très proche dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, avec Caïn. Caïn qui est jaloux de voir que son frère est béni. Dieu connaît le cœur de Caïn. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Le péché comme un monstre tapis à ta porte, il cherche à te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Pardonne! Et qu'est-ce qu'il fait? Pardonne pas, rancune, amertume, il va aller au meurtre, il va tuer son frère. On raconte l'histoire d'un vieux chrétien qui était tellement énervé de voir à quel point son voisin persistait à manifester de la méchanceté envers lui, qu'il déclara publiquement qu'il le tuerait. Son ennemi a entendu parler de ses intentions et attendit pour voir ce que ferait ce vieillard inoffensif. Mais au lieu de lui rendre le mal pour le mal, le vieux chrétien cherchait toutes les occasions de lui faire du bien. Au début, son attitude était un peu risible, presque agaçante. Mais quand enfin le chrétien risqua sa vie pour sauver la femme de son ennemi qui se noyait, leur animosité disparut. « Vous avez fait ce que vous aviez l'intention de faire, dit son ennemi. Vous m'avez tué. Ou plutôt, vous avez tué l'homme méchant que j'étais. Et maintenant, que puis-je faire pour vous? » Frères et sœurs, le monde sait bien reconnaître un véritable chrétien. Le monde n'a pas besoin de plus de christianisme aujourd'hui. Il a plutôt besoin d'avoir plus de chrétiens mettant en pratique ce que Jésus a enseigné. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Frères et sœurs, sur la croix, Dieu, en Jésus-Christ, a détruit la puissance destructrice du diable qui nous empêchait de pouvoir aimer nos ennemis, qui nous empêchait de pouvoir prier, de bénir ceux qui nous maudissaient, et qui nous empêchait de pouvoir prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Ça a été brisé, cette malédiction-là, à la croix. Et Dieu veut faire de vous des messagers de bénédiction. Que vous utilisiez votre langue, que j'utilise ma langue pour bénir, pour louer, pour adorer le Seigneur et manifester ainsi qu'on est des vrais disciples de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a rien de facile dans le pardon. J'ai eu mes combats, j'ai eu mon cancer parce que je ne voulais pas pardonner. Il n'y a rien de facile dans le non-pardon. Des fois, on passe par des leçons extrêmement dures quand on ne veut pas obéir au Seigneur. Mais le pardon, c'est le secret de la délivrance. Non seulement pour tous les pécheurs, mais aussi pour tous ceux qui s'identifient comme étant des enfants de Dieu. Amen.